Cette capsule sera un peu différente des précédentes puisque je vous proposerai une relecture de Tintin au Tibet par le prisme de mes recherches sur les liens entre trauma psychique, bande dessinée et personnages animaliers. Mais avant cela, je vous présenterai le webcomic Deep Dark Fears de l'auteur américain Frank Rose. Ce dernier travaille principalement dans le domaine de l'animation puisqu'on lui doit la réalisation de plusieurs courts-métrages dont le pilote de Utica Cartoon, produit en 2001 pour Cartoon Network et mettant en scène le quotidien décalé d'un ours et d'un singe dans la ville d'Utica où l'auteur a grandi. Enseignant dans le Character Animation Program du California Institute of Art, Frank Rose est également le réalisateur d'épisodes de Super Fuckers, l'adaptation télévisée des récits de super-héros politiquement incorrects de James Kochalka. En parallèle à ses activités, il a lancé il y a un peu plus de 2 ans le webcomic Deep Dark Fears, où il évoquait au départ ses propres peurs irrationnelles. Ouvrant ses strips généralement composés de 4 cases aux suggestions des internautes, il a mis en image les angoisses singulières d'une centaine de personnes. On pourra citer l'exemple d'un internaute qui craint que son reflet dans la glace ne mémorise toutes ses expressions afin de pouvoir se substituer un jour à lui de notre côté du miroir. Une autre personne se souvient d'un curé qui lui avait dit, alors qu'il était enfant, que Jésus habitait au plus profond de son cœur. L'enfant, prenant l'expression dans son sens littéral, imaginera de manière plutôt déplaisante la présence du Nazaréen se promenant d'un ventricule à l'autre. Un autre récit présente le témoignage d'une jeune femme qui craint que sa vie ne soit qu'un rêve et de se réveiller un jour pour découvrir qu'elle est un chien avec beaucoup d'imagination. Entre la peur d'avoir les doigts coupés sur une patinoire, celle que son enfant n'invente pas les fantômes dont il parle, ou encore celle de monstres filiformes cachés sous un lit dont le sommier serait au ras du sol, les Deep Dark Fears forment un catalogue macabre et fascinant. Les épais traits noirs du pinceau et des aquarelles plus lumineuses s'y conjuguent pour donner à l'ensemble un aspect de candeur pervers. Partageant savamment les informations entre récitatifs et données purement visuelles, Frank Rose parvient à donner un réel impact à ces petites histoires d'horreur qu'il a eu l'ingénieuse idée de récolter auprès des internautes. Mais passons maintenant à la Deep White Fear d'Hergé. Effectuant quelques recherches sur la création de Tintin au Tibet, je mis en relation mes recherches sur l'utilisation des personnages animaliers dans des récits autobiographiques évoquant un trauma psychique, les travaux des psychiatres François Le Bigot et Louis Croc, et des éléments de la vie d'Hergé glanés dans la biographie Hergé fils de Tintin de Benoît Peters. Marié à Germaine Kickens depuis 1932, Hergé nouera une idylle avec sa jeune coloriste Fanny Vlaming à la fin de l'année 1956. Cette relation adultérine et le choix qu'il devra faire entre Germaine et Fanny rongent l'auteur pétri par les notions de péché et de culpabilité héritées de son éducation catholique et celle du serment donné, prôné par le scoutisme. Une phrase de Nietzsche qu'Hergé citait en 1932 est sur ce point révélatrice. « Il n'y a pour toi qu'un seul commandement, sois pur ». L'idée d'évoquer un abominable homme des neiges au cœur de l'immensité immaculée du Tibet se fait ainsi l'écho du déchirement moral qu'Hergé expérimente à la fin de l'année 1957. Alors qu'il débute son travail sur cette nouvelle aventure en juillet 1958, Hergé fait une série de rêves de blanc qui le hanteront durablement. Ces rêves récurrents le mènent à consulter à Zurich le psychiatre suisse Franz Ricklin. « Vous devez tuer en vous le démon de la pureté », lui conseille Ricklin, qui lui suggère également d'abandonner son travail sur l'album. Hergé s'accroche cependant, bien décidé à franchir, avec ses personnages, l'école escarpée de son esprit en proie à un trouble qu'il ne parvient à saisir. Cette blancheur, insaisissable, pourrait nous évoquer le temps de l'effroi, sans pensée, sans idée, sans mots, que décrit François Le Bigot dans son ouvrage « Traiter les traumatismes psychiques ». Le psychiatre poursuit par ces lignes. « Le sujet se vit comme ayant été abandonné par le langage, c'est-à-dire par ce qui fait l'être de l'homme. Il traduit cette expérience indicible comme un abandon par l'ensemble des humains, mêlé d'un sentiment de honte devant sa déshumanisation. Dans le récit que le sujet fait de l'événement, il se désigne souvent lui-même comme un animal. « J'ai été réduit à l'état de bête ». Fin de citation. L'accident d'avion auquel survit Chang et qui fut introduit pour justifier le voyage au Tibet se pose comme le temps de l'effroi. Seul survivant de cet événement traumatogène, Chang est emporté de force dans les hauteurs himalayennes par le Yeti alors que les secours atteignent l'épave de l'avion. Abandonné par le langage, il est exclu du monde des hommes et introduit dans le domaine animal. En équipe réduite après une grande réunion de personnages dans Cocanstock, Tintin, Haddock et Milou entreprendront une quête qui n'est autre que celle du retour à l'humain. Avec Haddock, Milou, le Yeti, Tintin et son alter ego Chang, Hergé possède 4 configurations du rapport humain-animal. Le binôme Tintin-Chang pourrait être considéré comme une forme d'humanité désincarnée. Haddock, comme un humain déjà plus animalisé, barbu, impulsif. Milou, comme un animal muni d'une conscience. Et le Yeti, comme l'animal monstrueux. Chacune de ces configurations évoluera au fil du récit. Tintin, exprimant pour la première fois lors de ses aventures l'idée d'abandonner sa quête et son ami, se fait plus humain qu'il ne le fut jamais, s'incarnant par l'aveu de ses propres limites. Haddock, exprimant sa décision de se donner la mort pour sauver Tintin, se fait plus humain par cette notion de sacrifice. La conscience de Milou s'incarnera de façon remarquable dans cette aventure sous la forme d'un angelot et d'un démon. Le Yeti, abominable, se fera adorable pour reprendre les mots de Fanny Vlaminck. Versant des larmes au départ de Chang, larmes qui ne seront pas reprises au moment de l'ancrage, il sera devenu un être d'une sensibilité déchirante. Pour chacun des personnages, il y a un franchissement de nature qui fait écho à celui d'Hergé devant accepter de ne pas être immaculé et à celui d'un paysage montagneux qu'il faut traverser. Le cri primal poussé par Tintin au début de l'aventure tibétaine, ce Chang hurlait ensuite plusieurs fois comme dans une compulsion de répétition dont souffrent les victimes de traumatismes psychiques, sera devenu une parole articulée en fin de récit. Une parole enfin retrouvée par Chang. Secouru par ses amis, capable de partager avec Tintin le récit effroyable de son accident, il est revenu au langage et réintroduit dans la communauté des vivants. Le mutisme est désormais derrière lui, à l'image du Yeti silencieux, laissé seul dans l'immensité de son domaine. Si Tintin au Tibet est généralement considéré comme une ode à l'amitié, cette aventure me semble être également une œuvre évoquant le dépassement de l'effroi et du mutisme animal par une réappropriation du langage, c'est-à-dire par ce qui fait l'être de l'homme. Sawadee Kap, les amis.